ni invisible, ni oublié. Ni invisible, ni oublié. Invisible.
Ni invisible, ni oublié.
Ni invisible, ni oublié.
Ni invisible, ni oublié. Ni invisible, ni oublié.
Ni invisible, ni oublié.
À la recherche de nos histoires LGBTQIA, transpédéguine à Toulouse.
Nos histoires sont constituées de luttes, d'espaces plus ou moins éphémères, de fêtes et de projets parfois spectaculaires. Les années 90 et 2000 à Toulouse sont riches d'initiatives et d'expériences multiples et variées, pour beaucoup, rarement transmises.
Parce que cette histoire, même si nous ne l'avons pas toujours vécue, est aussi la nôtre. Parce que nous avons besoin d'imaginaire, de transmission de ces récits, de la force de ces expériences, nous avons voulu, à travers plusieurs portraits radiophoniques, raconter une partie de cette histoire.
À l'automne 2017, un week-end radio consacré à l'histoire des luttes a été organisé à Toulouse.
C'est dans ce contexte que nous avons voulu proposer une série d'entretiens pour affirmer que ces histoires ne doivent pas être invisibles et ne peuvent être oubliées. Cette recherche de nos histoires LGBTQIA, transpédéguine à Toulouse, est en réalité une chasse au trésor qui commence à peine et qui demande d'être continuée et complétée.
Ces portraits ne sont qu'une première piste à laquelle nous vous invitons à apporter d'autres bouts d'histoire et d'expérience.
Belle écoute.
Belle écoute.
Portrait radiophonique, épisode 1. Des croisières, des squats et des festivals.
Commencer l'histoire, ben, je peux parler du sissis et du sextoy, vite fait. Mais pour en parler, il faut d'abord que je parle de la croisière, toujours. Il faut commencer par la croisière, parce que c'était un moment de rencontre, de PD, de tapette radicale, donc de 1998 à 2003. C'était des rencontres francophones, deux fois par an, pendant une semaine, en Belgique, en Suisse et en francophonie. Avec une très grande rencontre avec les germanophones en Espagne en 2002 ou 2003, c'était la grande rencontre européenne.
Les croisières, ça s'appelait comme ça parce que c'était sur des bateaux ?
Non, pas du tout, parce que la croisière s'amuse et que c'était aussi c'était juste pour faire chic. Et parce qu'effectivement, on n'avait pas les moyens de se faire une vraie croisière. Alors du coup, on louait des gîtes dans les montagnes ou à la campagne, ou des trucs pas trop chers, qui soient accessibles aux personnes handicapées, qui soient suffisamment confortables pour s'il y avait des gens qui étaient malades. Enfin, il y avait un certain nombre de critères, avec des chambres en rez-de-chaussée pour s'il y avait des gens qui étaient en chaise. Et on a appelé ça la croisière, comme on aurait pu appeler ça l'ambassade, les soirées d'ambassadrice, ou je sais pas. Tu vois, en fait, on a appelé ça les croisières. Et après, c'était des rencontres où on parlait de tout un tas de choses. Moi, c'était aussi la première fois qu'on se retrouve, enfin, nous, pour notre époque, c'est la première fois que je retrouvais des gens qui étaient anarchistes, qui étaient, en plus d'être PD, transgenres, etc., tapettes. C'était aussi des gens qui étaient anards, donc du coup, c'était pas mal aussi. C'est comment tu... Tout le monde était isolé là dans les squats, chacun était éparpillé dans ses histoires, à être le PD fétiche des squatteurs locaux. Et là, tu te retrouvais tout d'un coup avec une petite bande de PD et tout, et c'était juste super cool et rassurant aussi, et ça donnait beaucoup de force. Et la première croisière, un petit fanzine est sorti, et après la croisière est devenue aussi cette rencontre qui permettait de sortir un fanzine deux fois par an sur des thèmes particuliers, les violences, le travestissement, le transgenrisme, ouais. du numéro avec 9 thèmes. Ouais. Et puis, ça a permis de rencontrer plein de gens, ça c'était un espace assez chouette. Et je crois la première croisière, il y a eu 3 ou 4 personnes, et après ils sont allés en moyenne 15-20 personnes, je pense. Et puis, sauf la croisière avec les Allemandes, où là on s'est retrouvé une quarantaine et tout, vers Barcelone, je sais pas où, au milieu dans un truc de colonie de vacances, je sais pas trop quoi, mais enfin moi avec des dortoirs. Bon, c'était au milieu de nulle part, il y avait des cailloux et des garrigues et tout, et juste des folles au milieu du désert, là c'était pas mal en fait, c'était assez chouette. Et c'est un pays, en plus c'est européenne quoi, tu vois, parce que du coup il y avait les Allemandes, avec les Allemandes il y avait les Néerlandaises et aussi les Flamandes. Et puis nous on avait les Wallonnes, et puis les Françaises, les Bretonnes, les Suisses. Et puis comme il y avait des potes qui connaissaient un peu des Barcelonais, donc les gens de Barcelone, ils sont les pédales barcelonaises qui étaient radicales aussi, ils sont venus faire un tour pour voir ce qui se passait et tout, rencontrer un peu du monde aussi, ça fait du bien. Donc là c'était chouette, là, ça fait durer une semaine aussi au milieu de cailloux et des caisses de bière.
Comment vous étiez rencontrés à la base?
À la base, moi je faisais un fanzine, et c'est avec le fanzine j'ai eu des adresses, j'ai eu des contacts. Après j'ai rencontré qui lui travaillait travailleur du sexe à Genève, qui bossait dans un bar à prix libre, un bar PD à prix libre à Genève. Donc voilà, on s'est rencontrés. Et puis après j'ai rencontré qui était de Toulouse et qui était ACT UP. Voilà, donc c'était la bande des trois. Entre temps, j'avais rencontré aussi un pote qui était tout jeune, qui était bisexuel, qui s'est vite affirmé que quand même la bite était vachement plus délicieuse. Donc il est devenu PD assez rapidement. Et du coup, lui aussi, après, il est parti à bosser, en Suisse aussi, à Genève, pour tapiner. Voilà, c'est le petit groupe un peu, ça, c'est le petit groupe qui est un peu... Ça, c'était le début de la croisière, là, de cette bande-là. Là. If anybody should die while dancing to this record, remember to remove them from the dance floor, but tag them for identification purposes. Il y avait aussi Androzine à l'époque, c'était un fanzine punk, PD, à Paris. Bon, franchement, ça, c'est le meilleur zine du monde. Qui existe depuis 1984-1985, c'était déjà queer avant que le queer n'existe, c'était déjà le fanzine queer, puisque ça, le fanzine était en 3 langues, ça parlait de ce qui se passait dans les squats, il y avait des textes féministes, enfin bon, il y avait déjà les passerelles, enfin, moi ce que je comprenais du queer, c'était les passerelles entre les trans et les pédéguines, les passerelles solidaires, les passerelles politiques de solidarité. Voilà, c'est déjà dans ce que publiait Androzine, c'était déjà ça. Déjà. Parce que soi-disant, le queer arrive des États-Unis, des années 80 et tout, enfin on fuit tout aux Américains, non, ça vient de Paris. C'est Androzine, ça vient de la scène alternative, non, ça vient de Berlin aussi. Berlin, il y avait des squats, il y avait tout un house, il y avait des squats déjà PD, il y avait des squats Gwyn, il y avait déjà tout un tas de trucs dans les années 80, il y avait des squats punk, PD à Amsterdam, c'était déjà queer. Après, on dit que le queer vient des États-Unis, mais ça, c'est les intellos et les professeurs qui nous racontent ça. Mais en fait, dans la réalité, la scène queer, elle existe depuis les années 80, en fait. Au moins 85. Après, je sais pas, j'étais trop petit, trop jeune. Et du coup, ces rencontres, ça a permis de tisser un peu des liens. Et de ces liens, il y a eu plusieurs initiatives, des participations à des Lesbian Gay Pride à Lausanne, à Lyon, à Toulouse, et à Bruxelles, je pense. Et peut-être même à Nantes. Enfin, moi, j'y suis pas allé, mais peut-être qu'il y a eu ce genre de trajet. Et puis, ça a permis aussi de se retrouver un peu sur Toulouse à plusieurs. Au début, pour faire des fêtes au Clandé, qui était un squat du centre-ville. De temps en temps, on organisait des soirées à thème. Alors il y a eu des week-ends où on faisait des projections de films, il y a eu des concerts et puis il y a eu des festivals, le festival XXYZ, donc tout ça c'est dans le temps. Et puis, entre-temps, en 2003, il y a eu l'ouverture du... Février 2003, il y a eu l'ouverture du 6-6. Donc ça, c'était le squat PD non mixte, radical tapette, etc. qui a été ouvert vers Saint-Cyprien. C'est une maison avec un jardin. Et, où c'était plutôt une maison d'habitation. C'était, ça avait plutôt été ouvert par des gens de la croisière. Donc beaucoup de gens de Paris qui étaient descendus, des gens de plusieurs endroits, mais je pense surtout Paris quand même, et après des gens du coin. Et puis ben là, l'expérience, bon, c'était plutôt un espace de vie et de fête. On a fait un espace d'activité aussi, on a fait quelques week-ends, je crois, avec des spectacles ou des perfos ou des... restaurant peut-être. Alors là, il me reste peu de souvenirs de ça. Et puis, surtout, c'était plaisant de se retrouver ensemble et de boire tous les soirs, etc. Enfin, bon. Oui, ça s'appelle le 6-6 parce que je crois que c'est en anglais. Je crois qu'en anglais, 6-6, c'est tapette. Ou si c'est pas en anglais, c'est allemand, je sais pas. Enfin, quelque part en Europe, les tapettes s'appellent les 6-6. Donc on a repris ce mot-là. Et puis, ça fait référence à une autre icône des tapettes. C'est Sissi l'impératrice, que tout le monde a vu à la télé et tout le monde a pleuré sur le drame de Sissi l'impératrice. Donc, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le 6-6. S-I de S-I, accent S. Le 6-6, voilà. Ouais, l'histoire avec le 6-6 qui a été assez rigolo, c'est que lorsqu'on a ouvert, très vite on a rencontré des voisines, et nous on n'était pas au courant, mais il y avait un squat green qui s'était ouvert juste à côté, qui était le... Et tout d'un coup on s'est soudain retrouvé à San Francisco, tu vois, dans un tout petit quartier où il y avait le squat green et le squat pédale, quoi. C'était San Francisco, tu vois, c'était totalement inattendu. C'était assez fou. Alors ce qui était assez rigolo, c'est que bon, la relou était non mixte, green, et c'était des espaces non mixtes, et nous aussi. Alors bon, alors parfois on avait des autorisations pour aller chez elles, et parfois elles avaient des autorisations pour venir chez nous. Mais en général, c'était quand même assez respecté. Il y avait que les potes hétéros qui étaient vraiment, eux, c'était liste rouge. Ils avaient beaucoup plus de difficultés pour rentrer. Je sais pas si ça a été permis, en fait. Giant step for you and all mankind. Then don't come back. I always gave you so much more than you deserved. No, don't come back. 'Cause no one makes a fool of me. You've got a nerve to walk away. Ah oui, c'était aussi l'époque où finalement... Ah oui, oui, non, et du coup, on a... l'organisation de la Lesbian Gay Pride de Toulousaine, alors donc c'est de 2003 et 2004, ou 2002 et 2003, je sais plus, il y a eu deux années de suite où les associatifs se sont séparés des commerciaux, où du coup on a organisé des Lesbian Gay Pride radicales qu'on avait transformées en Christopher Street Day, finalement, pour remettre l'histoire dans cet événement du mois de juin. Donc on a fait deux Lesbian Gay Pride ou deux Christopher Street Day, bon, au moins une en 2003, puis l'autre, je ne sais plus, c'était l'année d'après ou l'année d'avant. Bon, on s'est retrouvés quelques centaines, enfin c'était pitoyable, on n'avait pas de son, on n'avait rien, bon c'était... ça avait perdu beaucoup de paillettes et de plumes quand même, tu vois. Après les commerçants sont revenus l'année suivante, et puis bon, c'est redevenu ce que c'est maintenant, bon, une suite de chars et de machin, mais... Être présent dans les Lesbian Gay Pride, c'était pas mal, parce qu'on avait un camion, un char et tout. Soudainement, on venait aussi avec notre critique de l'hétérosexualité, etc. Donc ça, c'était chouette aussi, parce qu'à l'époque, les Pride, elles étaient, c'était cucu la praline. With my help. Donc au mois de juin, le propriétaire avait porté plainte et dans cette maison où finalement il y a eu aussi pas mal de conflits, finalement parce qu'on ne se connaissait pas tous et d'habiter dans cette... ensemble, finalement, c'était peut-être pas l'idée la plus géniale qu'on avait eue. C'était bien de se retrouver pendant les croisières parce que les croisières étaient très organisées, que chaque jour on avait des sujets de discussion et que quand tu es dans la discussion et dans l'idéal, bon, finalement, c'est peut-être plus facile pour... ça fonctionne mieux, en tout cas. Là, se retrouver ensemble à habiter, là, entre les gens qui font jamais la bouffe, enfin, bon, après, tu te retrouves dans un quotidien. Et là, PD, pas PD, tapette, pas tapette, les gens qui font pas la bouffe, ça fait chier, quoi.
Vous étiez combien, tu te souviens ou pas?
On était nombreux, hein, parce que vu que c'était le seul squat, il y avait, je pense, on était 8, 9, 10, je sais pas, on était nombreux, et il y avait plus de gens que de chambres, je crois, et des fois, on était un peu dans la promiscuité, quand même. Et puis, il y a eu pas mal de gens qui se sont détestés. Bon, après, c'est un peu élagué quand même. Il y a des gens qui sont partis, qui ont été foutus dehors. Et donc, en juin, on décide de laisser le 6-6 parce qu'il n'y a plus de motivation. Et, en fait, je crois que plus personne n'avait envie d'habiter là, vu que l'ambiance, probablement. Il y a des moments, ça fait ça, hein, totalement. Je crois que plus personne n'avait l'énergie de trouver un sens à garder ce lieu. Je pense qu'il y avait des gens qui avaient la motivation du mois de février. En fait, en plus, c'était pas que la motivation du mois de février, parce qu'on avait cherché pendant plusieurs semaines et plusieurs mois un truc à ouvrir. Mais dans le groupe d'ouverture, où des gens sont partis après ailleurs et vivre autre chose, ils n'avaient pas envie de rester à Toulouse. Donc du coup, ça perd... Enfin, il restait pas forcément les potes, tu vois. Bon, après, oui, bon, l'identité, oui, t'es entre PD, mais enfin, moi, si c'est pas tes potes, c'est pas tes potes. Hein. Du coup, voilà, bon, c'est fini en eau de boudin. Non, ça se dit. Et après, une nouvelle arrivée de potes de Nantes et tout ça, et d'ailleurs, de Lyon aussi. Et là, il y a eu l'idée, donc c'était 2003, fin juin, voilà, on commence à avoir chaud, c'est la canicule de 2003. Mais il y a quand même de l'air frais qui arrive, bon, certainement avec un cortège qui a dû être fait pendant la Lesbian Gay Pride toulousaine, puis les gens sont restés là. Et ils ont ouvert un grand bâtiment qui s'est appelé le Sextoy et qui est maintenant la maison des... dans la rue... comment ça s'appelle? La maison des... contre les discriminations, là.
Diversité.
De la diversité, voilà. Avant, c'était un énorme bâtiment. C'était une ancienne usine de tissus, de fils, de je ne sais quoi. Et qui allait sur... qui était immense, hein, parce que ça allait de l'autre côté... Derrière, il y a une impasse et ça allait de l'autre côté de l'impasse. Enfin, c'était immense, immense. Et ce truc a été occupé donc par tout un tas de potes qui sont arrivés d'ailleurs. Donc ça faisait un autre lieu qui s'ouvrait. Et là, le lieu était beaucoup plus ouvert. C'était un lieu queer. Donc c'était aussi ouvert aux gouines et aux trans. Et l'histoire, c'est que les propriétaires, ou la mairie, c'était la mairie qui avait racheté ça. Bah oui, c'est là. Et à l'époque, c'était Douste Blasi, le maire. Et la légende disait que la mère de Douste Blasi, alors je dis la légende parce que je ne sais pas si c'était la réalité ou pas, qu'elle habitait dans la rue. Et de voir autant de gens là dans la rue, soudainement, ça a dû la choquer. Et du coup, très très rapidement, je pense, le surlendemain, très rapidement, ils ont mis des vigiles devant le squat. Et tous les gens qui étaient à l'intérieur du squat... À part les deux personnes qui avaient donné leur nom, qui avaient le droit d'entrer et de sortir, toutes les sorties étaient définitives. Donc tous les gens sont restés à l'intérieur pendant des semaines. Et c'est là que je reparle de la canicule parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau à l'intérieur de l'usine. Je me marre, mais ils ont dû souffrir. Et donc c'est-à-dire pas d'eau, c'est pas d'eau pour boire, mais c'est aussi pas d'eau pour les chasses d'eau. Alors l'espace a beau être très grand et tout ça, si tu habites à nombreux à l'intérieur, je pense qu'au bout d'un temps, les conditions de vie sont assez difficiles. Et puis, en même temps, 2003, c'est aussi l'année où il y a des très grosses luttes d'intermittents du spectacle. C'est l'année où le Festival d'Avignon est annulé à cause des... ou grâce, je ne sais pas, ça dépend des avis, de la lutte des intermittents. Et là, les intermittents se mettent aussi en solidarité avec cette occupation qui est... les occupants du sextoy se mettent en solidarité avec les intermittents, ce qui fait qu'il arrive parfois que les intermittents du spectacle, pendant leur manifestation d'été estival, passent devant le sextoy et restent là en solidarité avec les TPG du sextoy. Et ça, cette histoire-là, elle a duré, je pense que ça a duré 2 mois environ, jusqu'à l'expulsion. Je pense que l'expulsion était assez rapide, et en tout cas avec un sacré travail de résistance, parce que les gens sont quand même restés à l'intérieur pendant 2 mois sans eau. On les ravitaillait par les fenêtres. Alors parfois, ça dépendait un peu des vigiles. Il y avait des vigiles qui étaient un peu plus complaisants, qui nous laissaient rentrer et sortir. Mais ils étaient rares et les vigiles se relayaient 24 heures sur 24. Ils bloquaient l'entrée et la sortie du sextoy. Et puis voilà, ce qui n'a pas empêché des gens de rentrer ou de sortir, pour moi ça dépendait des vigiles. Moi je ne faisais pas partie de cette histoire-là. Donc je suis rentré 2 fois ou 3 fois à l'intérieur à l'occasion, lorsque les vigiles le permettaient, pour des soirées, parce que là il y avait un toit où on était tout en haut sur le toit, c'était super pour passer les soirées, quoi. C'était quand même un espace politique qui revendiquait au moins la radicalité, qui devait contester l'hétérosexualité comme le système politique, la nécessité d'avoir des espaces de liberté. Je pense qu'il devait y avoir tout ça. Après, je ne sais pas s'il en reste beaucoup de traces. Je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup de traces. Après le sextoy, on a fait des événements. En fait aussi, ces moments-là, ça nous a permis de rencontrer des potes qui, eux, faisaient des trucs à la fac et qui étaient sur les mêmes longueurs d'onde que nous. Donc, les copines des Van, et puis d'autres potes. Bon, du coup, après, on a fait le festival XXYZ, puis, qui était une semaine de festival de films, donc de création TPG alternative. Première fois qu'on l'a fait, c'était en 2005, je crois, avec la clôture du festival, avec plein de groupes. Après, on l'a fait 2-3 ans de suite. Après, on a fait le Crash Fest. Là, c'était un festival de musique sur 3 jours aussi, avec plein de groupes transpédéguines européens, avec des groupes de Pays-Bas, d'Allemagne, d'Angleterre. Après, on a refait un petit week-end XXYZ, là, cinéma, en 2011. Donc ça, c'était le dernier soubresaut avant la noyade. Enfin, quand tu dois te noyer, c'est... Et après, tu disparais. C'est la petite main qui dépasse de l'eau et après, tu disparais. Fait 3. Alors c'est pareil, au début on a commencé au Clandé, donc c'était un squat, c'était un ancien bar américain qui était tout en velours rouge à l'intérieur, avec des banquettes rouges et des miroirs partout et tout, enfin le bar super joli, qui était resté dans style 1920-1930, en mode, je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme les métros parisiens, les vieux métros parisiens, art déco. Donc à l'intérieur c'était art déco, velours rouge et tout, c'était magnifique. Ça convenait tout à fait pour les fêtes transpédéguines, quoi, tu vois. Et sur la façade, tu avais une cigogne et un chat qui étaient sculptés. Et le chat, il ressemblait un peu au chat anard, tu sais, de la CNT, avec le cul un peu bombé comme ça. Et sa queue partait comme ça, et au bout de la queue c'était un gland. Et c'était le petit détail, tu vois, que personne ne ratait, qu'aucun initié ne pouvait rater. Et je pense que quand ils ont refait l'immeuble, je pense qu'ils ont supprimé le gland de la queue. Alors il y a toujours la queue du chat, mais je crois qu'il n'y a plus le gland. Ça, c'est pour la petite histoire.
Mmh.
En fait, l'histoire, c'est quand on a commencé à faire le festival XYZ, on voulait aussi le faire dans différentes structures toulousaines pour pas rester enfermé sur nous-mêmes. Donc, on l'avait fait dans les squats, mais on l'avait fait aussi à l'époque, il y avait une médiathèque associative rue de la Bourse. Et dans divers lieux, en fait, dans divers autres squats, à la Luna Loca aussi, on faisait une projection à la Luna Loca. Et chaque soirée avait des thèmes. Et puis, chaque soirée était présentée par nos speakerines. Et chaque festival se terminait par des remises de prix. Tous les samedis soirs, il y avait des remises de prix présentées par les speakerines. Enfin, bon, c'était comme à Cannes. Mais en mode plus tapette, quoi. Et après, les films, c'était des créations de genre. Bon, il y avait des trucs aussi qu'on piratait, des trucs qu'on aimait bien qu'on piratait sur le web. Mais sans demander l'autorisation, c'était... Et sinon, il y avait pas mal de gens qui produisaient tout un tas de choses et qui nous envoyaient leurs productions. Il y avait vraiment des chouettes trucs. Et au tout début, on passait tout ce qu'on recevait, même les choses chiantes. Et petit à petit, on s'est mis à faire des sélections, en fait, parce qu'on recevait vraiment beaucoup de matériel.
Les gens, ils faisaient des films pour le festival.
Oui, il y a des gens qui ont fait des films pour le festival. À Grenoble, on a reçu des prix pour ça. La scène grenobloise a eu des prix pour avoir fait des superbes films d'horreur. On a vraiment tremblé de peur. Ah oui, aussi des enquêtes sur l'hétérosexualité aussi. Bon, il y avait des super trucs qui étaient faits. Et puis des gens qui, à côté, il y avait aussi d'autres gens qui étaient artistes, dont le métier c'était de faire des vidéastes. Et que nous, on trouvait les contacts sur le web. Et du coup, on leur demandait de projectionner et puis ils étaient OK. Et après, bon, bah, la journée, on faisait. Bon, tous les ans, ça a changé de. On a changé de formule. Je pense que la première année, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on fasse des choses l'après-midi parce que les gens se faisaient chier. Parce que la première année, on faisait que des trucs le soir, que des projections le soir, et puis après la fête, évidemment, tu vois. Mais du coup, l'après-midi, bon, bah, les gens cuvaient, mais ils pouvaient s'ennuyer aussi. Donc la deuxième année, on a commencé à faire des ateliers, je crois. Il y a eu un atelier, il fallait customiser Big Jim et la poupée Barbie. Il y a eu des ateliers couture, des choses comme ça, pour se faire ses fringues. D'autres, une autre année, il y a eu des ateliers pendant une semaine, c'était « Fais ton film toi-même ». Donc là, il y a eu deux équipes qui ont été faites pour faire des films. Et effectivement, ces deux films étaient en compétition. Et à la fin, il y a eu projection et le film qui a gagné, c'était l'applaudimètre. Bon, enfin, bon, il y a eu beaucoup de trucage. Et puis, donc, il y avait... oui, du coup, après l'après-midi, il y avait des ateliers. Après, on s'est aperçu que c'était bien qu'on fasse de la bouffe aussi, enfin, au fur et à mesure, tu vois, on s'est perfectionné. Mais comme on s'était toujours dit qu'on ferait ça le temps que ça nous... qu'on trouve ça... que ça nous excite, quoi, ben, on l'a fait le temps que ça nous a excité. On l'a fait 3 ans de suite, je pense. Et puis après, on avait envie de changer. Comme il y avait un petit peu de groupe, on s'est dit, tiens, on va faire un festival de musique. Puis en fait, le festival de musique, au bout de 3 jours d'alcool et de drogue et tout, c'est plutôt mal fini. Tout le monde était la tête à l'envers et c'est pas trop bien fini, je crois. Donc on a fait une seule fois l'expérience de festival de musique. Parce que c'est beaucoup plus dur à gérer, en fait. Parce que les gens boivent et prennent beaucoup de choses quand il y a des concerts que lorsque tu vas au cinéma, non. Les gens boivent beaucoup moins, les gens boivent une bière, ça, en fait, ils n'arrivent pas, ils mettent pas les films archi bourrés et tout, que tu peux voir un concert archi bourré, c'est pas gênant, quoi, en fait. Et du coup, c'est pas la même gestion de public et du coup, il a fallu gérer pas mal de conflits quand il y a eu des concerts et du coup, on l'a fait qu'une seule fois. Ça fonctionnait quand même vachement bien parce qu'on avait des potes là qui tenaient le bar et tout. Alors c'était des... qui s'habillaient pour tenir le bar et tout et qui nous faisaient des sketchs mais à se pisser dessus. C'est là, ils sont plus là. Ils habitent en Espagne maintenant, à Barcelone. Mais là on était toute une bande de folles et tout. Là vraiment on s'est amusé au clan des, entre autres des soirées. C'était blindé de monde. Et un jour, je sais pas, des gens qui arrivent, mais avec des énormes bouquets de roses. Et là, on était en train de préparer, on allait ouvrir dans une demi-heure et tout. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces roses et tout. Et en fait, on a pris des plaques d'imprimerie en métal comme ça, et on a fait des trous, et on a marqué XXYZ tout en rose comme ça. C'était chic et en même temps rococo, et ça allait tellement bien dans le clan D, tu vois, parce que c'est rose qui allait dans un décor de bar américain, là. Et ça, pour moi, c'est un bon souvenir, parce que je me disais, ah oui, les gens, ils aiment venir ici, ils nous font des beaux cadeaux. Ça veut dire, je pense que les gens, ils avaient envie de ça, quoi, tu vois.
Il y avait des gens qui venaient de la France entière, du coup, il fallait les héberger, du coup...
Ah bah, pour le festival XXYZ, ouais. Oui. Ah oui, je pense qu'il fallait trouver 80 hébergements. Enfin, moi, je m'occupais pas de l'hébergement, mais c'était une copine qui s'occupait de l'hébergement et tout. Je crois, une année où il y avait 80 personnes à héberger. Et on n'avait pas tous, on n'habitait pas tous dans des manoirs, quoi, tu vois. Ah, donc, du coup, pour héberger 80 personnes et tout, il fallait dispatcher, quoi. Ouais, ouais. Et puis, du coup, oui, d'où l'intérêt après de faire des ateliers l'après-midi, parce que sinon, après, tu restes 12 par appartement toute la journée, et toi, c'est un peu relou, quoi.
T'es à quelle époque de l'année que vous faisiez ça ?
Février. Mais, alors écoute, février, mais la semaine de février, vous faites attention l'année prochaine, la semaine de février qui commence le 20 ou le 22, c'est la semaine de février où il fait beau. Tous les ans, il y a une semaine en février, vers le 20 février, où il fait beau, et c'est cette semaine-là. Nous, on s'en est aperçu par hasard, parce que pendant le festival, ben, il faisait un temps de mois de février, et tout d'un coup, au mois de février, on se mettait en t-shirt l'après-midi. Et il y a juste une année où on a décalé d'une semaine, il a fait mauvais temps. Donc on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on fasse vers le 22, la semaine du 22, et là, il fait beau. Et il faisait beau, il fait 20 degrés, c'est le premier soleil de... C'est les soleils de fin d'hiver qui annoncent le début du printemps, et il fait beau temps.
Et c'était facile d'avoir le clan D une semaine en mixité ou...
Il fallait négocier. C'était pas très facile parce qu'il y avait encore à l'époque pas mal de discussions sur la mixité et la non-mixité. Et la non-mixité n'était pas toujours bien vue. Ça dépendait un peu des gens qui venaient aux AG. Alors, il fallait... Quand certaines personnes étaient absentes, ça dépendait un peu. C'était des rapports de force aussi, un peu, tu vois. Comme dans tous les groupes. Donc, il y a des fois, on a pu faire des trucs en non-mixité, tout ça. Et des fois, non. Des fois, ça a été refusé. Bon, ben, ça a été refusé, et puis voilà. On n'a pas fait, on a trouvé d'autres lieux. Parmi tous les gens qu'on a rencontrés à cette époque-là, il y a des gens qui ont fait des groupes de musique, ce qui n'est pas rien, parce que c'était aussi notre travail, c'était de faire de la culture TPG, c'était parce qu'on trouvait que c'était la meilleure façon de faire avancer les choses, c'est de le faire plutôt avec des films et de la musique qu'avec des tracts, les gens ne supportent plus les tracts. En plus, moi je trouve le texte du tract est un peu chiant en général. Mais alors que d'utiliser d'autres méthodes, c'est beaucoup plus ludique et créatif. Et là, ça nous a permis donc de créer des groupes, de rencontrer des gens qui faisaient des groupes. Ça a donné la motivation à des gens pour faire des groupes. Et puis de toutes ces rencontres-là, il y a des gens qui sont aussi, grâce au XYZ, parce que moi je me rappelle d'avoir vu des gens au XYZ qui étaient tout jeunes, et qui, quelques années après, ont ouvert le TDB. Donc, l'histoire, elle est en continu, en fait. L'histoire, elle s'est jamais arrêtée, en fait. Elle a continué. Mais elle a eu plusieurs... Il y a plusieurs épisodes, il y a eu plusieurs chapitres. Mais tous les uns et les autres sont intéressants, hein, je pense.
Du coup, c'est un peu à ce moment-là que la scène TVG toulousaine, c'est un peu... constituée ou...
Il y avait déjà plusieurs réseaux, parce qu'il y avait déjà la fac, après il y avait 2003, il y avait déjà la Relou, c'était la scène Gwyn, il y avait les CC, c'était la scène PD, mais peut-être c'est comme ça que 2003, là, avec les squats. Mm-hmm. Mais à l'époque, on ne disait pas TPG parce que on n'osait pas dire Gwyn pour les copines, alors on disait PD lesbienne. Hein, voilà. Puis à un moment, il y a des copines qui ont dit non, mais on n'est pas lesbienne, on est Gwyn. Oh, enfin! Enfin! Et du coup, on a pu faire, on a pu se libérer totalement et dire TPG, Transpédé Gwyn, hein, c'était cool.
Toi, tu sais un peu quand il est arrivé ce mot?
Bah, je sais pas, parce que c'est, il y avait déjà des trucs à Paris, parce qu'à Paris, alors, il y avait les Gwyn PD Trans, parce que c'est leur super jeu de mots GPT. ça, c'est le jeu de mots parisien, nous, on a des trucs de TPG. Parce que queer, c'était insuffisant, en fait. Queer, en anglais, ça a un sens, ça veut dire, c'est un peu comme punk, en fait, ça a un sens que tous les Anglais et les Américains peuvent comprendre. Queer, ça veut dire, c'est aussi une insulte en anglais, mais queer en français, c'est pas une insulte. Alors, faire des soirées queer en étant ultra planqué, en fait. Parce que tu faisais une soirée queer, c'était même pas marqué homo. Tu vois, c'était, en fait, tu faisais des soirées invisibles qui étaient juste pour les initiés et tout ça. Alors, on s'est dit, c'est pas juste, en fait. Queer, ça peut pas être français. Queer, ça peut être que transpédéguine. Parce que transpédéguine, là, au moins, tu fais une affiche, c'est marqué Festival Transpédéguine, et là, tout le monde lit ce que ça veut dire. Et du coup, ça, c'est queer. Mais si tu fais une soirée queer, tu peux pas l'appeler queer, parce que sinon, ce n'est pas queer.
Portrait radiophonique, épisode 2, La Relou. Des lesbiennes, des féministes et un squat.
Vous avez une question d'accroche ou quoi ça?
Je sais pas, là, tu pensais...
À quel lieu?
Ouais, quand je te parle de ça.
Bah, je pense à un squat qui s'appelait La Relou... Il y a eu. Je suis un peu nulle sur les dates. Moi, quand j'y étais, c'était l'année de la canicule. Donc, je crois que c'est 2002 ou 2003. C'était un petit squat à Saint-Cyprien. C'était une petite maison de un étage, avec pas vraiment de pièces, quoi. Plutôt pas trop de cloisons, c'est mon souvenir. Il n'y avait pas les lecs et tout le monde nous disait « Ah, mais c'est cool, c'est pas grave, c'est l'été, mais en fait, la canicule sans les lecs, ça veut dire toute ta bouffe qui pourrit en deux jours et toutes tes récup dégueulasses. » Et puis, qu'est-ce que c'était que cette maison? C'était une maison... non mixte femme et lesbienne, parce que on disait pas Gwyn, je crois, encore, en fait. C'était petit, du coup il n'y avait pas grand monde, et puis aussi il n'y avait pas grand monde parce qu'il n'y avait pas trop de mouvement derrière. En fait, quand elles ont ouvert, du coup elles étaient deux, je crois, à ouvrir, elles se sont rendues compte assez vite qu'à côté, mais genre à même pas 100 mètres, il y a un autre squat qui ouvrait et c'était des PD. Ce qui était complètement hallucinant. Vu qu'il n'y avait même pas. Enfin, il n'y avait même pas de squat Gwyn LGBT ou je sais pas quoi dans chaque ville, quoi. Et là, il y en avait deux à 100 mètres et les gens se connaissaient pas. C'était le pur hasard, donc c'était vraiment un truc de fou. Et je me souviens un peu de ce truc que chez les PD, il y avait plein de monde qui passait. Il y avait plein de monde tout le temps. Ils avaient du gros réseau, plein de matières, plein de fanzines, plein de gens. Et que nous, il n'y avait pas grand monde qui passait. On n'arrivait pas trop à faire du lien avec. Il n'y avait pas. Ouais, je sais pas, il y avait peu de gens qui passaient, quoi. Et puis je pense qu'on avait l'air moins fun qu'eux. Je sais pas. Je sais pas, c'est un peu mon souvenir comme ça. Je suis une calamité, un bâton de dynamite allumé. Ami, un peu de délicatesse ou alors en quatrième vitesse. Vous n'aurez plus comme ça.
Toi, t'es arrivé comment dans ce lieu-là?
Je suis arrivée par une personne qui se définissait comme Gwyn à l'époque et que j'avais hébergée chez moi, et puis elle voulait tout le temps que ma coloc vienne la voir dans son squat à Toulouse. Puis ma coloc, elle y allait jamais, genre je fais bah moi je viens. Et du coup, j'y suis venue pour un week-end et en fait, je suis restée un mois et demi, quasiment. Et c'était la grosse blague parce que tous les jours, je partais à la gare avec mon sac et en fait, je revenais. Et du coup, c'est encore la blague maintenant quand je le vois. Que je pars et me dis, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vraiment ce truc que j'avais un gros. Il y avait les grèves en fait, au même moment que la canicule, du coup. J'avais pas de thune pour prendre le métro et du coup je traversais à Toulouse et souvent je revenais avant même d'être arrivée à la gare quoi. Et du coup je suis restée un mois et demi jusqu'à temps qu'il y a un autre squat qui ouvre qui s'appelait le Sextoy, qui est maintenant la maison de la laïcité et de la diversité. Moi au début ça m'énervait que ça s'appelle la relou, j'étais un peu merde, déjà on me trouve super relou si en plus ça s'appelle la relou, ça m'a puissé. Et je comprenais pas non plus femme et lesbienne, c'était marqué femme et lesbienne et je me disais putain faut être femme et lesbienne, enfin je comprenais pas. Et du coup voilà, j'étais un peu, je marchais un peu sur des œufs là-bas, je savais pas trop. Enfin j'étais vraiment arrivée deux jours en me disant bon ben on verra quoi. Après j'étais déjà dans des réseaux féministes plutôt anard et tout ça. Et du coup, c'était plus ouais, des squatteuses punk. La personne qui fait que j'étais allée, elle avait ouvert un squat à Lyon aussi qui s'appelait La Carabosserie et qui était un squat de meufs non mixtes. C'est la première fois que j'avais vu non mixte sur une affiche, c'était pour un truc dans ce squat-là. Quoi. Du coup, après, je sais pas, c'était une personne qui m'impressionnait vachement et du coup, je la suivais un peu. C'était un peu mon. Je me disais, ouais, quand je serai grande, je serai aussi forte qu'elle, quoi. Et du coup, voilà, du coup, je l'ai suivie jusqu'à tout. C'était. Et après, pourquoi ça s'appelait comme ça, je sais pas. Et puis quand j'ai demandé pourquoi femme et lesbienne, elle m'a dit ah, va chercher dans l'info kiosque là, lis Monique Wittig. Alors j'ai lu Monique Wittig. C'était cool, mais j'en ai un souvenir aussi où tout était pas facile. Mais moi, je prenais ce qu'il y avait de bon à prendre, quoi. Je me souviens que je. Il y avait des interactions qui me plaisaient pas, il y avait plein de choses qui auraient pu. Après, je me suis dit, purée, ça m'a pas touchée, alors que ça aurait pu vraiment me toucher, mais en fait j'étais vraiment un peu spectatrice aussi ce qui se passait, je sais pas comment dire. Puis du coup il y avait toutes ces brochures, je lisais beaucoup et je me suis mise à dessiner aussi, que je dessinais quasiment pas, et là il y avait de la peinture, les murs ils étaient blancs, du coup j'ai commencé à tout repeindre et à faire des espèces de fresques sur tous les murs, surtout des salles d'activité, de la salle d'activité en bas et de l'extérieur. Et voilà, je sais pas, j'ai passé. Ça m'a renforcé quoi, ce un mois et demi là. Même si tout n'était pas facile. Après, je sais pas, sur la relou, j'ai l'impression qu'il y avait tellement pas d'espace en non-mixité, c'était vraiment. Enfin, je sais pas, c'était complètement. Il n'y avait pas un collectif non mix quoi, il n'y avait rien, enfin, ça choquait tellement, c'était, je sais pas comment dire, c'était vraiment, moi ça m'a fait tellement de bien, enfin, c'est là que j'ai découvert plein d'autrices et que ça m'a, je sais pas, je lisais un texte et je révolutionnais ma vie le lendemain quoi, par exemple j'étais hyper un garçon manqué. Et puis j'ai lu un texte dans l'info kiosque d'une meuf qui raconte comment, comme elle est féminine, on la prend pas au sérieux et qu'en fait dans les milieux anard, la norme c'est d'être masculine. Enfin c'est le masculin et que du coup j'ai commencé à fouiller dans la fripe, à mettre une espèce de nuisette en dentelle et je suis sortie dans la rue comme ça. Et après je me suis habillée de manière hyper féminine pendant près de 3 ans quoi, en me disant je vais au carton quoi. Bon j'y suis bien allée, hein, ça a été hyper trash mais je sais pas, il y avait un peu un truc comme ça de se dire allez go quoi. Enfin, c'était vraiment aussi un peu expérimental de la non-mixité, du coup il y avait une enfin ça se questionnait un peu, mais il y avait des jours non-mix total et puis des jours où il y avait des mecs qui pouvaient venir mais qu'à certaines heures, enfin c'est ça se négociait un peu. Il y avait un salon de thé, je crois que c'était une fois par semaine ou toutes les deux semaines, je me souviens plus. Mais ça je l'ai retrouvé le papier, je crois que c'est un des seuls papiers qu'il y avait, c'était ça. L'affiche de les salons de thé, on allait poser cette affichette dans les autres. endroit à Toulouse, on se faisait hyper mal recevoir. Genre, dans d'autres squats ou à l'info-kiosque. Enfin, dans les autres lieux un peu activistes de la ville, quoi. Du coup, ça, c'était un peu le truc ouverture vers l'extérieur, c'était un peu ces salons de thé. Après, j'ai pas trop d'autres souvenirs. Il y a plus quand il y avait, par exemple, des potes de je sais pas quelle ville qui débarquaient, là, il y avait un peu d'émulation, mais sinon, je me souviens pas trop d'activité.
Du coup, là, le début des années 2000, c'est un peu les premiers, à Toulouse, les premiers squats, du coup, enfin, LGBT ou TPG. Enfin, tu dis que TPG, ça n'existe pas forcément encore comme nom. Enfin, hein, tu dis que vous faites mal recevoir dans les autres lieux de la ville, ça veut dire que la scène, elle n'est pas encore comme elle est aujourd'hui et,
Pas du tout, mais vraiment pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait aussi ce truc, je sais pas si ça existe toujours, mais il y avait un peu des villes à la mode où c'était plus facile d'ouvrir des squats. Du coup, il y a eu Dijon à un moment quand même où il y avait pas mal de squats féministes. Il y avait les tanneries qui restent, mais il y en avait eu pas mal. Et je sais qu'il y avait eu un squat non mixte aussi à Dijon. Après, Dijon, la municipalité a vachement resserré, ça a été la galère et tout. Il y a pas mal de gens qui sont allés à Grenoble ou à Toulouse. Du coup, c'était plus ce truc de dire « Ah, dans cette ville, il paraît qu'on peut ouvrir », et du coup, les gens, ils y allaient, quoi. Et je me souviens que les gens du 6-6, donc le squad des PD, eux, ils se disaient PD. Il y avait quasiment pas de Toulousains, ce que je me souviens. C'était aussi d'autres gens qui étaient venus ouvrir à Toulouse, mais c'était pas une scène toulousaine. Moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment une scène toulousaine. Je me souviens qu'il y avait la Luna Loca, qui existait déjà, et où on allait, où on essayait d'avoir des liens et tout ça. Il y avait Griselidis aussi, qui est en train de se monter. Du coup, je me souviens qu'on avait des interactions, qu'on allait les voir et tout. Mais il n'y avait pas un milieu féministe à Nard comme Will, comme maintenant, pas du tout. La Luna Loca, c'est un bar associatif lesbien qui était à Minimes Claude Nougaro avant qu'il y ait le métro. Pour nous, ça nous semblait le bout du monde. Et maintenant, c'est c'est loin de Barrière de Paris, mais Barrière de Paris, ça serait le métro le plus proche. Et c'était un lieu qui était très grand, hyper vivant, quoi. Il y avait vraiment des tonnes de personnes. Il y avait bien, avec des soirées non mixtes et des soirées mixtes. Je sais pas, il y avait des soirées, il y avait bien 400 meufs là-dedans. C'était vraiment connu en toute la France. Avec plein de générations, enfin, je sais pas, il y avait vraiment pas, c'était pas, bon, il y avait souvent plein d'embrouilles, mais justement, parce que c'était hyper, des meufs vachement différentes les unes des autres, quoi, plein d'âges différents, enfin, du coup, c'était, ça dansait jusqu'à hyper tard, bon, la musique, on n'aimait pas trop, mais bon, c'était chouette, et ça, du coup, là, ça a déménagé, et tout ça, ça a changé, mais aussi... Et Griselidis, c'est une asso de santé communautaire avec les travailleurs du sexe. Du coup, au début, c'était avec les prostituées, on disait pas travailleurs du sexe non plus. Qui existe toujours aussi. Et là, qui était à sa création, il y avait 3-4 personnes dans mon souvenir. Parce qu'il y avait aussi ACT UP, il y avait aussi des gens qui étaient plutôt dans les PD, du coup, dans le squad de PD qui étaient proches d'ACT UP. Je me souviens qu'on était allé à un répit, là, les réunions d'information d'ACT UP. Enfin, il y avait des liens comme ça. Mais non, il n'y avait pas de scène trans pédégouée. Je me souviens pas qu'il y ait vraiment de revendication trans à l'époque. C'était assez dur. Enfin, moi, j'ai un souvenir des PD pas du tout sympa à l'époque. Vraiment pas cool avec nous. Enfin, pas avec tout le monde, mais en tout cas avec moi, j'ai vraiment un souvenir de me dire « mais je ne dois rien faire avec eux ». Même s'il y avait des gens avec qui je m'entendais bien, mais je comprenais pas des fois nos alliances politiques avec les PD. Et puis, il y avait une marche, une Christopher Street Day, du coup, c'était la Pride, donc, sans aucun commerce. Je me souviens qu'il y avait l'organisation, j'étais là, mais j'étais pas investie dedans du tout. Mais je me souviens des commentaires à la fin des réunions, il y avait des réunions qui se passaient dans la roue. Et du coup, il n'y avait que des assos, pas de bar, pas de machin. Il y avait sûrement des incompréhensions des fois entre des PD qui se revendiquaient travers du sexe ou pute et tout ça. Et l'association des parents gays, c'était un peu marrant. Mais voilà, c'est un peu les autres lieux, Luna Loca, Grace et Lady Acteur. La Pride, ça avait été tout un truc aussi, ça avait été hyper chouette.
La Pride de quelle année, tu t'en souviens?
Bah de cette année-là, là, je me souviens plus. On s'est arrêté, l'année de la canicule. On s'était arrêté à la Dora, je me souviens, puis moi j'avais voulu juste aller dans un cybercafé parce que personne n'avait internet. Et du coup, il y avait des espèces de gars qui attendaient les gens qui sortaient parce qu'on était, je sais pas, on était 200, hein, c'était pas gros quoi. Je m'étais fait agresser juste à côté de la Pride parce que j'avais juste un tout petit truc marqué Gwyn quelque part, ou lesbienne, je sais pas quoi, ça m'avait hyper attaqué. Et du coup, comme support, on avait beaucoup les brochures, du coup des gens qui faisaient... Ah oui, c'est ça aussi, il y avait les meufs de la Relou, elles tenaient un... Il y avait un infokiosque au Clandé, et elles tenaient un jour par semaine, ou un jour... Enfin, je sais pas, elles avaient une permanence en tout cas au Clandé, quoi. C'était un des liens qu'il y avait avec le Clan D.
Le Clan D, c'est quoi?
Le Clan D, c'est un squat qu'il y avait vers la rue du Décathlon, là. Une petite rue qui part de là, qui a duré, je sais pas, alors là, il faudrait trouver d'autres gens pour en parler, mais ça a duré des années, des années, des années. Et ils se sont fait expulser, il y a eu une manif de re-rentrage, enfin, ça a été hyper long. Et c'était un ancien bordel, en fait, et c'était qui s'appelait le Mayflower. Et du coup, c'était des banquettes rouges en velours, enfin c'était hyper joli quoi. Et les premières fêtes transpètes des Gwyn à Toulouse, c'était aussi au Clan D. C'était un peu le. Je sais pas, le lieu punk, le squat punk qui dure dans le temps avec beaucoup d'activités. Que moi, j'étais allé une fois et que juste les gens ils arrivaient et ils disaient ah, c'est vous, c'est quoi ce truc non mixte? Enfin, c'était pas évident de. Enfin, moi j'avais l'impression que notre réputation nous précédait vraiment. Et qu'il y avait. Moi ça m'a donné cette sensation. Après, je sais pas. Je pense pas que c'était le cas pour tout le monde. J'avais vraiment l'impression qu'on n'avait pas de lien avec la ville. Qu'il y avait le 6-6 et la Relou qui faisaient un peu. On se tenait les uns avec les autres. Mais qu'en vrai, on n'avait pas. C'était comme. Il y avait quelques personnes qui étaient de Toulouse. Mais sinon, on était des. On connaissait pas les gens quoi. Enfin. On allait dans des endroits, les gens nous recevaient hyper mal, enfin, c'était pas en lien trop avec la ville, quoi. C'est mon impression. Quoi. Tu me visais droit au cœur, bang bang, tu me tuais, bang bang, et je t'en... C'était pas marrant pour moi, en fait, cette période. Enfin, je sais pas comment dire, on était comme hyper seuls, hyper mal, il y a des gens qui sont morts de cette période-là. Qui étaient malades, qui ont fini en HP, enfin je sais pas, il y a une espèce de truc où à la fois c'était un peu l'énergie du désespoir, je sais pas comment dire, mais c'était vachement dur. Du coup j'ai pas trop de souvenirs, j'ai plutôt des souvenirs comme ça où on se rattrape les uns les autres parce que c'est dur ou qu'on n'arrive pas à être bien ensemble les uns avec les autres parce qu'on se fait trop attaquer par l'extérieur, du coup on s'attaque un peu les uns les autres. Et sinon le seul souvenir que je pourrais pas le raconter. Je pourrais pas le raconter. Mais c'est marrant de recroiser des personnes aussi, ce qui m'a fait plaisir il y a pas longtemps. J'ai recroisé une personne et je me suis dit, tiens, cette personne est passée à la Relou. Et après, je me dis, ah, peut-être je plane ou quoi. Puis du coup, je lui dis ça et elle me dit, ah oui. Enfin, je sais pas, il y avait très peu de monde qui est passé par là. Et aussi dans ce truc de être là un moment, partir à un autre, revenir, enfin. Je sais pas, je trouve toutes les personnes. Je trouve ça fou que sur toute cette troupe qu'on était, il reste quasiment personne en fait aujourd'hui dans les luttes transpédégones à tous. Enfin. La date de péremption est passée. Je sais pas comment dire. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on après 10 ans dans son milieu. Après, il y avait aussi le fanzine Bang Bang qui est resté quand même pas mal de cette époque-là. J'ai l'impression que pour. Pour les PD, c'était vraiment un truc qui a vachement marché. pour se fédérer et tout, parce que c'était écrit collectivement sur un thème, ils approfondissaient, enfin, ils lançaient un thème, ils appelaient ça les croisières, des rencontres, je sais pas si c'était que pour écrire ce fanzine ou quoi, mais en fait c'était vraiment une écriture collective avec des rencontres et tout ça, ils étaient vachement plus fédérés, ils avaient vachement de liens avec d'autres PD dans d'autres villes, enfin c'était plus construit. Que nous, les lesbiennes, j'ai l'impression qu'on avait vraiment rien, quoi. Enfin, on avait quasiment pas de raison. On avait le réseau féministe ANAR, qui était pas très fort à ce moment-là. Et c'est tout, quoi. Du coup, c'est... ouais, les outils comme ça... je sais pas, plus tard, quand des PD m'ont dit « Oh là là, vous, les lesbiennes, vous êtes hyper nombreuses, vous êtes hyper... » je sais pas, ça m'a... J'étais un peu énervée, quoi. J'étais « Ah non, mais attends... » Avant, c'était vous, et en plus, vous me traitiez comme de la merde, donc ça va aller. Après, il n'y a pas eu lieu pendant très longtemps.
Okay.
Et il y avait. J'ai l'impression qu'après le sextoy, il y a eu comme un trou, il n'y a que quelques personnes qui ont fait passerelle. Mais après, ça a été un peu. Comment ça s'appelle ? Ça s'est reparti un peu, je pense. C'est reparti avec des collectifs et puis le XXYZ et tout ça. Mais il n'y avait pas de lieu, quoi. C'était plus des festivals, des collectifs. Et là, c'est là que le mot transpédéguine il arrive, en fait. Plus à ce moment-là.
Tu sais d'où il vient ?
Bah, je sais pas. Après, je sais pas qui a inventé le mot. Il faut trouver qui c'est.
Non.
Mais j'ai l'impression, par contre, que c'était vraiment l'idée de... Bah, que le queer, c'était vachement des universitaires. Pour nous, c'était vachement des universitaires. Et puis, que transpédéguine, c'était plus un peu matérialiste, je pense, aussi de dire... C'est pas blablabla, c'est juste, en fait, oui, on est des... Enfin, oui, on dérange, et oui, on subit, et oui, on a envie de pas être normal, mais c'était pas... Le queer, moi, j'ai l'impression que c'était un peu une insulte à l'époque. Je sais pas si ça allait toujours un peu pour moi. Mais ce que je faisais, espèce de queer, c'était un peu genre, toi, tu blablates, mais... Enfin, ça, c'était vraiment un truc de parisien, quoi, pour nous. C'était pas... Ça avait aucun rapport avec ce qu'on faisait, quoi. C'est mon souvenir, quoi. Mais dans tous ces gens-là de cette clique, de cette époque-là, quand j'y repense, il n'y avait pas d'universitaires, par exemple. Il y avait des gens qui s'étaient échappés de leur famille, il y avait des punks, beaucoup de punks surtout. Chez les mecs, beaucoup de travers du sexe et tout, mais il n'y avait pas... C'était pas très intello comme délire, quoi. Même si c'était quand même... Enfin, les textes, ils sont hyper intéressants dans Bang Bang, mais c'était pas... Enfin, moi, c'est mon souvenir. Hein, Voilà. C'est dur parce qu'on a envie de rendre hommage aux gens et en même temps, on peut pas dire leur nom parce qu'on sait pas s'ils aimeraient. En même temps, c'est... Enfin, ouais, je sais pas, c'est des moments où moi, ça m'a vachement construite et j'en garde... J'ai retrouvé des personnes de la relou hyper longtemps après, c'est des gens hyper importants dans ma vie maintenant. Ça a été vraiment un moment de... Ça m'a apporté plein de choses ce moment-là, quoi.